Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, troubles dans la santé mentale, c'est le titre du dossier de la revue Esprit du mois de décembre qui vient de s'achever. C'est un thème important alors que la santé mentale devrait être cette année 2025 une cause nationale. Ce dossier se propose de relater les évolutions profondes que la psychiatrie traverse aujourd'hui et les enjeux politiques et sociaux que révèlent les troubles psychiques, lit-on dans l'introduction de cette série d'articles passionnants. Pour en parler, nous recevons notre amie Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire, vous le savez, dont la devise est aussi la nôtre, en quelque sorte, comprendre le monde qui vient. Voici un nouveau numéro du magazine Idée à retrouver aussi sur l'appli RFI et sur le site de la radio. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Et d'abord bonne année, puisque nous commençons l'année ensemble.
Et bonne année à vous et à vos auditeurs.
Premier numéro d'idées de cette année 2025, qui va être notamment, on va parler du dossier sur la psychiatrie évidemment dans un instant, mais qui 2025 qui va être l'année de Trump, Donald Trump, le retour, puisqu'il est investi dans quelques jours le 20.
Voilà, non, Donald Trump, le retour. Donc, c'est le début du deuxième mandat de ce président hors norme. Et on attend évidemment de voir ce qui va se passer entre les excès, les outrances de sa campagne, tout ce qu'il a promis à ce moment-là et la façon dont il va gouverner maintenant.
Alors, hors norme, Anne-Lorraine Bujon, c'est le cas. Il exerce une fascination certaine. Lors de l'inauguration, la réouverture de Notre-Dame au début du mois de décembre de l'année dernière, il était là, tout le monde l'a remarqué, et j'ai observé les regards, même des personnalités qui regardaient Donald Trump, c'était des regards absolument fascinés. En fait.
Oui, c'est la première chose qu'il faut dire sur Donald Trump, c'est que c'est d'abord un homme du spectacle. Donc ça avait été relevé par beaucoup de commentateurs lors de sa première élection en 2016. Donald Trump était d'abord une célébrité des magazines People qui ont relaté ses aventures quand il n'était encore qu'un mania de l'immobilier, puis à la télévision et dans cette émission The Apprentice. Et donc, c'est un homme des écrans, c'est un homme qui a ce charisme télévisuel, il faut lui reconnaître ça, et le sens du show. Et donc, effectivement, il fascine, il sidère, il sature les ondes, et il sature même la bande passante dans nos cerveaux. Après son échec en 2020, on a pu penser qu'il allait tomber dans l'oubli, enferré qu'il était dans un grand nombre d'affaires avec la justice. Mais il a fait un retour, un comeback spectaculaire. Et c'est encore et toujours lié à ce sens du spectacle, des images. On se souvient de la tentative d'assassinat à l'été dernier, avec ces images vraiment iconiques. Voilà, c'était le comeback, le retour de Trump. Et d'ailleurs, après cette tentative d'assassinat ratée, il a acquis un peu l'aura effectivement d'un revenant et avec pour un certain nombre de ses soutiens les plus fervents quelque chose vraiment de messianique. Trump serait un sauveur, un homme providentiel venu réparer l'Amérique, venu la guérir de tous ses maux. Donc il y a tout ça avec Trump, et puis certains d'entre nous verront autre chose, la vulgarité du personnage, son caractère complètement infantile, la pauvreté de son vocabulaire, voilà.
Sa façon de serrer les mains aussi, on a l'impression que dès qu'on lui dit bonjour, un combat commence.
Et une sorte de personnalité totalement narcissique et sans surmoi, puisqu'on va parler de santé mentale. Voilà, il y aurait quand même à dire sur ce type de personnalité qui lui aussi est peut-être une personnalité un peu borderline.
Et ce qui est fascinant également, Anne-Lorraine Bujon, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, vous l'avez sans doute observé, c'est que depuis son élection en novembre, jusque donc à son investiture dans quelques jours, le monde se prépare en fait. Il y a une sorte de compte à rebours. Tout le monde se dit, notamment en Europe, Trump va revenir, il faut se préparer.
Alors oui et non. C'est-à-dire, il faudrait toujours se replacer dans les circonstances où il y a tout le mal que Trump a déjà fait. Et donc, on a peut-être déjà fort à faire en s'inscrivant dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans se mettre à anticiper ce qu'elle pourrait être demain. Mais vous avez raison, tout le monde se prépare, mais moi, ce qui me frappe...
Une sorte de compte à rebours.
Ce qui me frappe, et ce qui me frappe pour les États membres de l'Union européenne en particulier, c'est pourquoi ils n'ont pas utilisé les 4 années de l'administration Biden pour se préparer beaucoup mieux à un éventuel retour de Trump, puisqu'on savait que c'était possible. Mais je pense que pendant les 4 années de l'administration Biden, il y a eu une sorte de volonté de se convaincre que finalement Trump n'avait peut-être été qu'une parenthèse malheureuse, son élection un accident de l'histoire, et que les choses allaient reprendre leur cours avec un président des États-Unis atlantiste, internationaliste, attentif aux intérêts de ses alliés, qui comprend ce que c'est qu'une alliance déjà, ou qui s'intéresse au multilatéralisme. Mais en fait, le président Biden était très âgé, on le sait, et c'était vraiment le dernier représentant d'une génération d'Américains grandis dans les combats et les idées de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc avec cette internationalisme et l'idée que les États-Unis avaient une responsabilité à exercer dans les affaires du monde. Il y a eu un changement de génération, les partis ont beaucoup évolué, le contexte politique a beaucoup évolué, et les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde, et ça depuis la présidence Obama en réalité. Et les Européens auraient dû s'y préparer beaucoup mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Parce que se pose toujours, Anne-Lorraine, la question de l'OTAN. Trump a réaffirmé, après sa réélection, qu'il quitterait peut-être l'OTAN si les membres de l'OTAN ne jouaient pas le jeu.
Voilà. Alors ça
comme
fait partie
lors de son premier mandat.
Ça fait partie des provocations de Trump. Ce que je lis, moi, sous la plume des spécialistes de défense et de sécurité, que je ne suis pas, c'est que le risque n'est pas tant que les États-Unis se retirent de l'OTAN, mais plutôt qu'ils fassent une lecture un peu différente, notamment de du fameux article 5, qui les obligerait à intervenir en cas d'agression de leurs alliés. Donc apparemment, il y a des raffinements et on peut en faire une lecture un peu moins contraignante. Et puis surtout, les États-Unis vont faire pression sur leurs alliés européens pour que les alliés européens augmentent la part des dépenses de défense et de sécurité dans chacun de leurs budgets et donc qu'ils assurent eux-mêmes une plus grande part de leur défense. Et donc là, on entre vraiment dans des deals, des transactions comme les aime Donald Trump, qui est très déterminé à leur tordre le bras pour qu'ils dépensent plus pour leur propre défense et sécurité, et de préférence qu'ils achètent de l'armement américain.
Bien sûr. Anne-Lorraine, donc Trump est au cœur de l'éditorial de ce numéro du mois de décembre intitulé, c'est tout un programme, « Un chaos en expansion ».
Et oui, et ici, dans l'éditorial, en fait, on s'est intéressé en particulier à la relation plus que trouble que Donald Trump entretient avec l'État de droit. Donald Trump est une figure extraordinairement transgressive. Il a bousculé beaucoup de normes de la vie démocratique américaine. Il ne croit pas beaucoup à la bienséance, ça c'est assez clair. Mais il a aussi un rapport très compliqué appliquée au pouvoir judiciaire aux États-Unis. Précisément, quand il était président, il a limogé, il me semble, trois ministres de la justice successifs parce que il était très en colère que les ministres de la justice ne soient pas son ministre de la justice et qu'il ne lui oblige pas au doigt et à l'œil. Et puis, il a eu ensuite lui-même des démêlés avec la justice. Il a été enferré dans au moins quatre affaires différentes, donc certaines fédérales, d'autres au niveau des États, et je ne parle que des affaires pénales, mais il y a aussi des affaires civiles. Il a prétendu être la victime, en fait, d'un harcèlement judiciaire. Et il est aussi très déterminé à se venger de ce harcèlement judiciaire en jetant lui-même certains de ses adversaires politiques en prison. Enfin, en tout cas, ça fait partie des déclarations qu'il a faites pendant la campagne. Et donc, en fait, finalement, Donald Trump ne croit au droit que quand le droit lui donne raison.
Alors justement, vous écrivez, Anne Lorraine, dans l'éditorial de ce numéro de décembre de la revue Esprit, qu'il détricote les procédures et les mécanismes de la démocratie libérale.
Voilà, la démocratie américaine, elle repose sur un ensemble de procédures qui ont jusqu'ici eu une vertu presque, enfin une dimension presque sacrée en fait aux États-Unis, donc la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Et donc parmi ces procédures, il y a le fait que, par exemple, les nominations les plus importantes de ministres à la tête des gouvernements, mais aussi de juges à la Cour suprême, par exemple, sont soumises au Sénat, qui peut auditionner les candidats et ensuite voter pour confirmer ou non leur nomination. Donc on sait que Donald Trump a fait plusieurs propositions assez rocambolesques pour voilà, les postes de ministre de la Santé, de ministre des Affaires étrangères, de ministre de la Défense. Et certaines de ces personnalités ne devraient pas passer la rampe du Sénat. Il a aussi parlé d'essayer de se passer de cette procédure. Et il faudrait pour ça un exercice totalement acrobatique. Ce qui nous semblait très important dans cet éditorial, c'est de souligner que là, c'est un vrai test pour la démocratie américaine. Ces procédures existent. Elles existent pour limiter des dérives possibles du pouvoir exécutif, en l'occurrence. La question, finalement, c'est est-ce que les sénateurs vont tenir tête à Donald Trump, ce que les institutions autorisent, ou est-ce que les sénateurs vont décider de se coucher finalement devant cet homme et sa version assez autoritaire du pouvoir exercé par un président des États-Unis ?
Aujourd'hui et demain, c'est-à-dire pendant tout leur mandat.
C'est un premier test, oui. Mais effectivement la question va se poser pour d'autres décisions que pourrait prendre le président, donc avec l'accord du Sénat. En matière de politique étrangère, par exemple, dès lors qu'il s'agit d'engager les deniers de la République américaine, le président doit aussi agir avec l'accord du Sénat. Donc, sur le dossier ukrainien, par exemple, l'aide ukrainienne, si vous voulez, c'est un pouvoir partagé dans les institutions américaines entre le président et le Congrès. C'est pourquoi je dis c'est un premier test. Comment vont se passer ces nominations ? Le Sénat va-t-il jouer ou non son rôle de contre-pouvoir ? Il est à majorité républicaine. Ça n'est pas pour autant que les sénateurs républicains vont choisir de faire les quatre volontés du président. Mais on va voir dans les premiers mois là, comment ça se met en place.
Même si beaucoup de sénateurs républicains sont devenus des sénateurs républicains tendance Trump.
Tout à fait. Le Parti républicain a connu une mue profonde ces dernières années et on peut dire aujourd'hui que le Parti républicain est trumpiste. En l'occurrence, au Sénat, qui est renouvelé par tiers, il y a un certain nombre de sénateurs républicains trumpistes. Il y a encore quelques sénateurs qui évoquent plus le Parti républicain d'autrefois, des conservateurs bon teint, on va dire, modérés, qui pourraient décider de s'opposer là encore aux nominations les plus fantasques.
Alors avant, Anne-Lorraine, que nous parlions de la santé mentale, il faut préciser qu'il y a également un article dans le numéro de décembre de Véronique Naoum-Grapp sur l'Ukraine. 2025 va aussi être une année sans doute importante pour l'Ukraine.
Bien sûr, ça fait partie, vous disiez, tout le monde se prépare au retour de Donald Trump. Ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles on observait cette élection avec beaucoup d'inquiétude, de savoir ce que ça veut dire pour l'Ukraine. Et dans cet article, la menace venue de l'Ouest, Véronique Naoum-Grapp souligne que voilà, il y a une fatigue, une habituation des opinions à cet état de guerre, et que dans ce contexte, évidemment, beaucoup sont tentés d'abandonner l'Ukraine, en boitant le pas à Donald Trump, qui a dit qu'il aimerait régler ce conflit
en 24 heures.
Personne ne sait en fait comment pourraient se dérouler d'éventuelles négociations, mais ce que Véronique Naoum-Grapp souligne ici, c'est que pour les Ukrainiens, s'ils continuent de se battre avec la dernière énergie contre cette agression russe, c'est aussi parce qu'ils savent quel sort est fait aux populations qui vivent dans les territoires à l'est de l'Ukraine aujourd'hui occupés par la Russie et que cette question du régime politique qui pense que la guerre autorise tout, c'est aussi une indication politique du fait qu'on ne peut pas traiter avec ce régime, on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est pourquoi l'Ukraine dit aujourd'hui, ça n'est pas tant une question de territoire qu'une question de garantie de sécurité. Si l'Ukraine acceptait un cessez-le-feu aujourd'hui, comment lui garantir que la Russie ne reprendra pas l'agression dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans? Voilà. Et elle rappelle le sort épouvantable qui est fait aux populations, notamment de Mariupol, où on n'a même pas enterré les morts et on a reconstruit la ville littéralement sur une terre peuplée de morts. Et elle rappelle aussi cette question absolument tragique de la déportation des enfants ukrainiens. Ce sont des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie et russifiés, donc qu'on prive de leur propre identité, de leur propre histoire, et c'est un crime contre l'humanité.
Suite de ce numéro d'idées, nous avons parlé de Donald Trump avec vous, Anne-Lorraine Bujon, qui est notre invitée et notre amie dans ce numéro du début du mois de janvier d'idées. Et nous parlons ensemble du numéro de décembre d'Esprit, dont le dossier s'intitule « Troubles dans la santé mentale ». Nous en parlons parce que, je le répète, cette année 2025 devrait être l'année de la santé mentale, décrétée cause nationale. Et parce que Anne Lorraine, cette question de l'état mental en général préoccupe les Français. Je regardais un sondage Ipsos. On fait rarement référence au sondage dans cette émission, qui disait que un sondage d'octobre de l'année dernière, de 2024, qui disait que près de 60% des Français s'interrogent régulièrement sur leur santé mentale.
C'est vrai que le sentiment depuis le Covid, qu'on est entouré de gens qui ne vont pas bien ou que soi-même, on ne va pas bien, ça a nourri plusieurs réunions de notre comité de rédaction. Et on parlait de Donald Trump à l'instant, de cette impression qu'il y a une accélération terrible dans les événements internationaux et qu'il nous arrive une série de choses folles. Et je me dis parfois, nous sommes tous en train de devenir fous. Donc je pense que c'est effectivement ce sentiment qui existe dans le comité de rédaction de la revue Esprit, où on essaye de rester à peu près sain d'esprit, mais qui est aussi partagé par la population française. Et notamment, depuis le Covid, on a vu paraître un grand nombre d'études et d'enquêtes sur la santé mentale des jeunes.
En particulier, on va y revenir,
qui est particulièrement préoccupante, avec une insuffisance criante, en fait, de structures, de soins, de médecins, et pour s'occuper donc en particulier des jeunes, mais c'est peut-être une loupe grossissante sur l'état du système de soins psychiatriques en général.
D'ailleurs, l'introduction à ce dossier dans la revue dit ceci: la santé mentale est un problème de santé publique majeur. Signé Alain Ehrenberg, Marie Geoffrey Roustide et Aurélie Tullard.
Voilà, donc c'est un problème de santé publique majeur. Ces dernières années, donc, il y a eu plusieurs tribunes de médecins pour alerter, je le disais, sur l'insuffisance des moyens. Et donc l'insuffisance des moyens, ce sont les soignants, les psychiatres, particulièrement très peu de pédopsychiatres, les institutions, les structures qui peuvent accueillir des personnes qui ont des troubles psychiques. Il y a eu aussi des études très préoccupantes sur le nombre, en fait, de personnes qui auraient besoin de soins psychiques, qui en réalité se retrouvent en prison, faute de place pour les accueillir dans des structures de soins psychiatriques. Et on imagine aisément la difficulté supplémentaire que cela cause. Donc il y a effectivement un problème de santé publique majeur.
D'ailleurs, il faut définir peut-être, c'est ce que fait le dossier, ce qu'on entend par santé mentale, parce que ça recouvre finalement beaucoup de choses. Par exemple, le stress. Dans le sondage auquel je faisais allusion tout à l'heure, il apparaît que 29% des personnes interrogées se disent atteintes par le stress, 29% chez les hommes et 39% chez les femmes. Donc le stress peut être considéré aussi comme une pathologie de la santé mentale.
Tout à fait. En fait, ce qui est important dans ce dossier, donc, qui a été coordonné par deux sociologues et une psychiatre, donc Marie Geoffrey Roustide et Alain Ehrenberg sont les deux sociologues, Aurélie Tinland, la psychiatre, c'est qu'ils s'intéressent aussi à la santé mentale comme un langage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on parle de santé mentale plutôt que de troubles psychiatriques, par exemple? Alors, c'est vrai que santé mentale, c'est beaucoup plus large. Et donc, ça peut englober le spectre, depuis des affections mineures, comme le stress, jusqu'aux psychoses les plus graves. Et donc, il y a ici aussi un article très intéressant de Pierre-Henri Castel sur la question des états limites. Je parlais tout à l'heure de personnalité borderline, donc des états limites à laquelle on prête une plus grande attention aujourd'hui. Mais donc, santé mentale, c'est tout le spectre des troubles psychiques et c'est aussi notre propre intérêt pour la question, notre propre propension à se demander si nous sommes, oui ou non, en bonne santé mentale. Donc c'est aussi finalement un nouveau langage pour dire, Alain Ehrenberg a cette très jolie formule dans son article qui parle en particulier de la santé mentale des enfants et de l'évolution de la manière dont on considère les troubles psychiques de l'enfant. Mais Alain Ehrenberg parle des désordres de la personne. La santé mentale, ce sont tous les désordres de la personne. La personne, c'est une notion qui est très chère à la revue Esprit depuis sa fondation. La personne plutôt que l'individu. Et quand on dit la personne plutôt que l'individu, on dit aussi ses relations à son environnement, ses relations à sa famille, une communauté, la société, et dans toutes les dimensions de son existence. Et donc, Alain Ehrenberg dit la santé mentale, aujourd'hui, c'est aussi le langage dans lequel s'exprime les désordres de la personne dans la société de l'autonomie. Puisqu'on vit dans des sociétés très individualistes, des sociétés de l'autonomie, où il y a une forme d'injonction à aller bien et une forme d'injonction à se réaliser soi-même.
C'est ce que dit d'ailleurs aussi Pierre-Henri Castel dans son article sur les cas limites, en disant que c'est un syndrome, un révélateur de l'individualisme contemporain.
Voilà, alors je pense que tous les auteurs du dossier partagent ce constat.
C'est au cœur de ce dossier, oui.
Voilà, que nous vivons dans des sociétés très individualistes. Alain Ehrenberg, dont j'ai parlé, est connu notamment pour un livre important qu'il a publié dans les années 90, qui s'intitulait « La fatigue d'être soi ». Et donc, nous vivons dans des sociétés individualistes où nous avons un grand nombre de droits, un grand nombre de possibilités, où nous sommes beaucoup moins contraints par l'ordre social. Mais paradoxalement, et ça, je pense que c'est une des hypothèses de travail de l'ensemble des auteurs de ce dossier, paradoxalement, le fait d'avoir plusieurs possibilités, moins de contraintes, beaucoup de choix, devient une injonction. Une injonction à être heureux, une injonction à réaliser son plein potentiel, une injonction à être dans la performance.
Et un potentiel, c'est un des mots les plus utilisés aujourd'hui, hein, votre potentiel.
Voilà, absolument, et notamment chez les enfants. Mmh. C'est-à-dire que quand les enfants ont des troubles de l'apprentissage, de l'attention à l'école, on aime bien se dire que ce sont des enfants, par exemple, à haut potentiel et qu'il faut les aider à réaliser leur potentiel. Donc en fait, tout ça, c'est comme une exagération de cette tendance dans les sociétés contemporaines à dire mais il faut aller bien.
Et d'ailleurs, Bruno Falissard, dans l'entretien qu'il vous accorde dans la revue Esprit, dit que ces questions de santé mentale sont liées également à une époque, à un moment qu'il appelle le moment victimaire.
Oui, alors, donc ça c'est
être victime.
Pour exister, finalement. Pour exister, pour être singulier, on a besoin d'être victime de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, par exemple, d'un trouble. Donc, il est pédopsychiatre, Bruno Falissard. Donc, par exemple, d'un trouble de l'apprentissage, d'un trouble de l'attention. J'en parlais à l'instant. Être dyslexique, être dyspraxique, avoir un certain type de handicap à surmonter. Effectivement, pour exister dans sa singularité. Et c'est aussi un thème que reprend Mathieu Fèvre-Issaly dans son article sur la neurodiversité, la neurodivergence. C'est vrai que c'est étonnant le nombre d'enfants ou de jeunes autour de nous à qui on trouve un de ces troubles qui sont répertoriés dans la littérature médicale. Alors, il y a une première lecture qui est de dire, ben oui, ce sont des troubles qui ont été très bien repérés et documentés par des grands labos pharmaceutiques qui vendent des médicaments. Donc, en fait, on serait tous aussi victimes, pour le coup, de ces grands groupes de pharma qui sont très rapides à proposer des médications pour les troubles psychiques. Mais je pense qu'il se joue quelque chose de plus subtil, en fait, dans ces sociétés où on a besoin d'être unique unique et singulier. Et donc, comment est-ce qu'on y parvient? Et donc, je ne pense pas qu'il faille accuser ou rendre les individus responsables de cette nouvelle façon de décrire les choses ou d'essayer de les comprendre. C'est ainsi. Dans l'entretien avec Bruno Falissard dont vous parlez, il y a tout un passage très intéressant sur les différences entre filles et garçons à l'adolescence par rapport à cette question du narcissisme et notamment par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et j'y pensais quand vous parliez de l'enquête sur le stress où apparemment les chiffres sont assez différenciés aussi
entre hommes et femmes.
Ouais. Et donc là, je crois qu'on a, pour les psychiatres et les psychothérapeutes, ils sont en train d'étudier les choses. L'usage des réseaux sociaux par les jeunes, c'est encore relativement nouveau. Donc, on commence à avoir des chiffres et des études et des analyses, mais il va falloir attendre pour que tout ça prenne tournure. Mais donc, on sait que les réseaux sociaux, au moment de la construction de l'image de soi, peuvent jouer un rôle tout à fait nocif pour tous les jeunes, mais en particulier pour les jeunes femmes. Et ça, sans pouvoir dire pourquoi, comment, ça a l'air assez clair que dans ce moment de construction d'une image de soi, de narcissisme et de la manière dont on se socialise, dont on s'appuie sur cette image de soi pour construire des relations avec les autres, amicales, amoureuses, sexuelles, les filles souffrent particulièrement aujourd'hui.
Suite de ce numéro d'idées consacré aux troubles dans la santé mentale, pour reprendre le titre du dossier d'Esprit, notre revue partenaire, dossier publié au mois de décembre dans le numéro 516 pour être précis. Et nous poursuivons notre conversation, Anne-Lorraine, dans cet entretien avec Bruno Falissard, décidément cité, qui est au cœur de ce dossier. Bruno Falissard, qui est pédopsychiatre, se demande pourquoi il n'y a pas plus de pédopsychiatres en France. Il dit il y a 10 000 psychiatres en gros en France, combien pour les enfants? Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il répond à la première question de l'entretien, comment va la psychiatrie aujourd'hui? C'est cette question. Il répond, la psychiatrie, en particulier celle de l'enfant et de l'adolescent, est dans un état désastreux, notamment en raison d'une pénurie de soignants qui va en s'aggravant.
Une des hypothèses importantes au cœur du dossier, c'est qu'on peut avoir le sentiment qu'on ne va pas très bien, qu'on est entouré de gens qui ne vont pas très bien, mais que quand on pose la question aussi à des médecins et aux personnes qui connaissent le système hospitalier en France, ils vous disent « et les psychiatres ne vont pas très bien », ce qui est quand même...
Et nous-mêmes, nous nous posons des questions.
Voilà. Donc, il y a cette question très spécifique de la pédopsychiatrie et Bruno Falissard...
De la psychiatrie en général. général et de la pédopsychiatrie
en général et de la pédopsychiatrie en particulier. Pour la pédopsychiatrie en particulier, Bruno Falissard rappelle que c'est un problème très spécifique et qu'on a trop eu tendance à considérer par le passé que les psychiatres pouvaient aussi soigner des enfants parce que globalement c'était la même chose. Et alors il souligne que par exemple en pédiatrie il y a bien une spécialité médicale reconnue et donc on sait bien que un pédiatre est mieux à même de soigner un enfant, donc la même chose devrait être vraie en psychiatrie, et il le dit en particulier pour les médecins qui forment les médecins. Donc il souligne en particulier une lacune en France, c'est-à-dire pas assez de pédopsychiatres, ça veut aussi dire pas assez de professeurs de pédopsychiatrie pour former la génération suivante de pédopsychiatres. Donc il y a là un cercle vicieux. Donc là, c'est très clair, il tire la sonnette d'alarme et il dit que c'est très urgent que la France forme davantage de pédopsychiatres. Mais donc ensuite, il y a cette question de la psychiatrie qui n'irait pas très bien. Donc il y a une question de moyens, d'institutions, de structures, de soignants. Mais au-delà de ça, il y a cette question qui traverse aussi le dossier. Est-ce que la psychiatrie est la réponse la plus adaptée ou pas à nos troubles de santé mentale? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de psychothérapies auxquelles on peut avoir accès. Il y a aussi tous les progrès des neurosciences et des sciences cognitives, et c'est abordé par un certain nombre des auteurs aussi. Il y a aussi la question de la psychanalyse qui est entrée en crise, en fait, après avoir été la discipline reine. Aujourd'hui, la psychanalyse est plutôt sur la sellette. Donc, en fait, lorsque les gens ont des troubles psychiques, il y a une gamme de réponses possibles. Et je pense que une des questions du dossier, c'est de dire est-ce que la psychiatrie en institution, est-ce que la psychiatrie pratiquée comme une discipline médicale et scientifique est toujours la réponse la plus adaptée à nos troubles psychiques et est-ce qu'on ne devrait pas utiliser toute la gamme des réponses possibles? Et en y incluant ce que notamment les psychiatres Aurélie Tinland et Grégoire Billon appellent les savoirs expérientiels, c'est-à-dire la connaissance que les patients eux-mêmes peuvent avoir de leurs troubles psychiques, leur faculté à se raconter eux-mêmes, à raconter leur vie, et donc à être vraiment des acteurs très importants dans le processus thérapeutique.
Se raconter lors des séances de psychanalyse notamment, ou même dans le cadre de soins psychiatriques, et la place du récit dans l'art thérapeutique, et donc la place, on y revient, de la personne dans tout cela.
De la personne comme héros ou héroïne de sa propre histoire. Alors, ce qui est intéressant dans cet article de Grégoire Billon et Aurélie Tinland, c'est qu'ils parlent, en connaissance de cause, de changements dans les pratiques thérapeutiques, et donc de la place qu'on donne au récit de soi des patients maintenant dans le cadre de certaines pratiques thérapeutiques. Ça se développe, ça prend beaucoup de place et j'ai parlé tout à l'heure de cette question des savoirs expérientiels, c'est-à-dire plutôt que d'imposer quelque chose au patient, le laisser se raconter lui-même et devenir l'auteur de son propre récit de vie. Donc c'est nourri de leur expérience de psychiatre et du soin thérapeutique, mais il le rapproche aussi dans cet article du travail fondateur de Paul Ricoeur sur les structures narratives et le récit, et il rappelle que cette faculté à prendre la parole et à faire le récit de sa propre existence, c'est aussi une expérience fondatrice, qui fait de nous des êtres humains, tout simplement. Donc c'est vraiment constitutif de notre humanité, cette capacité à se raconter soi-même.
Et il y a un article singulier qui s'intitule « Vers le rétablissement » de Francesca Mazarier, qui elle-même a souffert de troubles psychiques, psychologiques, je ne sais, mais qui écrit un témoignage émouvant. Et en creux, elle nous parle du fait d'être malade sur le plan psychique dans notre société de développement personnel. Elle écrit ceci: « À une époque où le bonheur est un impératif, une difficulté psychique reste mal vue, voire un tabou. »
Oui, alors cet article vers le rétablissement, moi je l'ai trouvé particulièrement saisissant, bah, précisément parce que c'est un récit. Voilà.
Oui.
Donc c'est vrai que les articles
C'est de
qu'on
l'autre
publie,
côté
les
du
articles qu'on
malaise.
publie dans la revue Esprit, ce sont souvent plutôt des analyses, voilà, c'est plutôt
D'acteurs,
voilà.
des
Alors
observateurs.
ici, c'est un récit.
Oui.
Elle nous raconte son histoire, et c'est une histoire d'un parcours qui n'a pas toujours été facile. Donc elle raconte Francesca Masariet, donc des épisodes de troubles psychiques aigus et des internements, en l'occurrence, et ce qui ressort en fait d'une forme de maltraitance par l'institution. Donc d'avoir été contraint, d'avoir été forcé, de ne pas avoir été
Et
écouté.
d'avoir été seule, elle écrit son récit. Voici les premières phrases de son récit, Anne-Lorraine. Nous évoluons dans une culture qui valorise la raison en traversant une prétendue crise psychique, c'est entre guillemets. Pour la première fois, j'étais bouleversée de ne pas avoir les codes pour l'appréhender. La solitude.
La solitude, et elle raconte qu'à plusieurs reprises, elle a essayé de
Ouais.
dire à des médecins dans des institutions ou ailleurs que les traitements qu'on lui proposait ne la convenaient pas, des traitements notamment médicamenteux qui la rendaient d'une certaine manière encore plus malade, et qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas été écoutée. Donc ça pose la question de la maltraitance par l'institution, et effectivement, celle de la solitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que par étapes, elle s'est rétablie, Francesca Masariet, et en devenant actrice de ses propres troubles, et à tel point qu'aujourd'hui, elle est aussi art-thérapeute, donc elle est elle-même entrée dans un parcours à la fois en animant des associations de support entre personnes atteintes de troubles psychiques, et puis en devenant art-thérapeute elle-même, donc avec une autre, voilà, avec une autre perspective sur le soin et l'accompagnement de personnes atteintes de troubles. Mais il y a en fait effectivement encore dans les institutions et dans certains cas, et c'est l'article sur le droit aussi qui en parle, l'article de Benoît Hérault sur la manière dont le langage des droits rencontre celui de la santé mentale, parfois une tendance effectivement à déresponsabiliser, à infantiliser, à prendre de haut les personnes atteintes de troubles psychiques.
Idée.
Dans son article intitulé La claque de l'Everest, Nicolas Marquis écrit dans ce dossier du numéro d'Esprit un récit passionnant sur le développement personnel qui est finalement un signe d'un malaise mental dans nos sociétés. Lui parle de développement personnel comme un rituel dans les sociétés individualistes et industrialisées en général.
Oui, c'est la deuxième fois que Nicolas Marquis donne un article sur le développement personnel à la revue Esprit. Je ne me souviens plus exactement de la date de publication du précédent, mais c'est toujours très intéressant parce que il regarde, si vous voulez, avec un œil parfois un peu amusé, le succès hein, de toutes les alors les
Ah oui.
ouvrages d'abord. Hein, il y a toute une littérature du développement personnel, mais ici il parle donc d'un documentaire Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Donc, à côté des ouvrages, des applications, maintenant il y a aussi des productions audiovisuelles
Alors, c'est un
qui...
documentaire du youtubeur Inoxtag.
Voilà. Voilà. Et qui connaît un succès aussi considérable. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui se donne un an pour gravir l'Everest et donc et de la claque qu'il reçoit quand il y arrive. Et donc, c'est évidemment une invitation faite à chacun d'entre nous de se prendre en main, d'essayer de se perfectionner soi-même, de devenir une meilleure version de soi-même. Et alors, Nicolas Marquis, justement, montre que, en réalité, ce schéma, il est déjà très ancien. C'est-à-dire que la volonté de se perfectionner soi-même, d'être la meilleure version de soi-même, donc il renvoie à des ouvrages beaucoup plus anciens, comme par exemple ceux de Ralph Waldo Emerson, oui. Ou de Thoreau dans leur philosophie américaine sur le self-reliance, comment apprendre à compter sur soi-même. Donc il explique que ce type de littérature n'est pas nouvelle, mais qu'elle connaît aujourd'hui un succès phénoménal et un peu paradoxal dans le sens où c'est très convenu, c'est très cliché, beaucoup de ses productions sont sur le même schéma, beaucoup de ses livres peuvent être réédités à l'infini finalement, 3 recettes pour maigrir, 4 recettes pour être performant dans son travail. Donc il y a quelque chose de convenu, il y a quelque chose de cliché, mais dans le fond ça nous parle énormément et il dit aussi que ça laisse une place à la pluralité quand même des expressions et des manières de se perfectionner soi-même. Donc il y a là une tension entre une certaine forme de conformisme et une possible pluralité des expériences.
Donc il faut lire ce dossier « Troubles dans la santé mentale » dans le numéro de décembre de la revue. Et je profite des quelques minutes qui nous restent pour signaler qu'il y a également un papier extrêmement intéressant sur un sujet que nous traiterons prochainement dans Idées sur la pensée décoloniale et sa remise en question aujourd'hui. C'est un article signé Jean-Loup Amsel qui fait le point et qui parle d'un livre qui sera au cœur d'une conversation que nous aurons avec ses auteurs, Critique de la raison décoloniale. Nous verrons cela dans les semaines qui viennent. Et je voudrais aussi préciser que Esprit, c'est également un site.
Voilà, Esprit, c'est aussi un site, esprit.presse.fr, donc où nous republions tous les articles des numéros mensuels imprimés, mais où nous en publions également d'autres, notamment...
Des inédits, des nouveaux.
Voilà, oui. Notamment des notes critiques sur le cinéma, sur les expositions, sur le théâtre, que on souhaite souvent publier assez vite, pendant que les spectacles, expositions sont encore visibles. Et puis aussi des podcasts, et des vidéos, donc lorsque la revue organise des rencontres publiques, et c'est le cas notamment avec la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, nous avons un cycle de rencontres intitulé Le Monde sur un fil, et nous organisons des rencontres tous les 2 mois à peu près, qui sont ensuite filmées et en accès gratuit sur le site d'Esprit.
Et donc je recommande à nos auditeurs fidèles d'aller sur le site de la revue Esprit et de lire, s'ils sont en France, la revue Esprit papier, donc Troubles dans la santé mentale. C'était le dossier du mois de décembre de l'année dernière. Merci Anne-Lorraine Bujon, je vous souhaite une très bonne année.
Merci à vous et bonne année à tout le monde.
Et je suppose que vous allez suivre avec attention, jour après jour, les premiers mois du mandat d'un certain Donald Trump.
Voilà, Trump le retour, c'est à examiner de très près.
Anne-Lorraine Bujon, donc directrice de la revue Esprit, dois-je le rappeler ? Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous sur le site de la radio et sur l'appli RFI Pure Radio. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde en ce début d'année.